rapidement de la Suisse, que Dindo, bien évidemment, entreprend. Le seul film de Richard Dindo qui était sorti en France en salle, c'était Max Frisch, journal 1-3, un film fort beau qui ouvrait des possibilités au cinéma documentaire. Ce film mêlait plusieurs supports, le Super 8, la vidéo, le 16, la couleur, il me semble qu'il y avait du noir et blanc. Et c'est un film entrepris sur 2 années, entre 1978 et 1980, avec Max Frisch. Évidemment, c'est une lecture cinématographique de l'œuvre de Max Frisch et surtout des femmes de la vie de Max Frisch, avec une femme qui prend un relief étonnant dans le film, c'est Ingeborg Bachmann, la poétesse, que je vous encourage par ailleurs à lire. Et puis, Richard Dindo avait entrepris aussi le portrait d'un cinéaste suisse oublié, Max Haufler, Der Stummel muet, avec la fille de Jeannette Haufler. Donc on voit une œuvre documentaire sur les traces, effectivement, des pères. Donc on va écouter Richard Dindo pendant toute l'émission. J'avais rencontré Richard Dindo en 1987, après avoir vu Danny Michi, Renato et Max, qui n'était pas sorti en France à l'époque. Le film avait été présenté dans des séances exceptionnelles au Centre culturel suisse. 1987, nous étions au sortir de l'affaire Malik Oussekin. Et évidemment, j'aurais souhaité qu'à l'époque le film sorte en France, ce que j'avais dit à Dindo. Le film sort aujourd'hui, il est toujours d'actualité, et c'est donc sur toute l'œuvre de Dindo que cet entretien avait porté. C'est donc ce que je vous propose ce soir, cette rencontre avec Richard Dindo.
Effectivement, on est en train de trouver ces thèmes Assois. Et à ta là, on commence à les approfondir, à travailler dessus, à les diversifier. Donc moi, j'ai rapidement compris ce qui me préoccupait dans le cinéma, c'est donc effectivement une recherche du père. Je ne sais pas si je l'étais derrière moi maintenant ou pas encore. C'est un retour à la patrie, dans la mesure où j'ai quitté la Suisse à l'âge de 20 ans, m'ayant toujours senti un peu étranger dans mon propre pays. Je reviens donc en Suisse pour rechercher mes origines, pour me réconcilier avec mes origines. J'ai appris à Paris un certain nombre de choses, dont un rapport au langage. J'ai toujours pensé que les Suisses allemands n'ont pas de rapport au langage, n'ont pas le sentiment du langage, n'ont pas ce sentiment du langage comme un objet de plaisir. Tout cela, je l'ai appris en France, à travers la lecture de Proust, par exemple, qui était avec Frisch, mon grand éducateur. J'ai toujours été autodidacte de tout ce que j'ai fait, j'ai toujours appris par moi-même, n'ayant justement pas eu de père. Et j'ai assez rapidement compris que raconter des histoires suppose un art de raconter des histoires, une tradition, et que cette tradition s'hériter, doit s'apprendre de génération en génération. Et par exemple, chez moi, mon père, par exemple, était pas un éducateur, mais je ne l'ai pratiquement pas connu. Donc, rapidement, je me suis rendu compte que j'étais en train de chercher des gens qui me transmettaient un héritage de la parole, un droit aussi à la parole. J'ai toujours pensé que la parole, il fallait se l'accaparer. Moi, je suis fils d'ouvrier, personne ne m'a jamais donné la parole. J'ai toujours pensé, il faut lutter et prendre ma parole, ça fait partie d'un combat. Et j'ai toujours donné la parole à des gens précis qui, justement, ne l'avaient pas, des gens opprimés, aussi à travers la parole. Et c'était ça un peu l'enjeu de mes premiers films, en quelque sorte. Un enjeu que j'ai appris en faisant du cinéma. C'est-à-dire, apprendre ce sur quoi j'avais envie de travailler en faisant du cinéma. Et apprendre de même, et en même temps, comment faire du cinéma, à ma manière.
Oui, tu dis que tu fais des films de résistance. Mais on a presque envie de se dire, mais on n'est pas en guerre, tu vois.
Si moi je suis en guerre, c'est-à-dire les gens avec lesquels je travaille sont en guerre permanente. Ils luttent pour leur liberté, pour leur dignité, pour leur parole. Je crois que la vie sociale est une guerre en Suisse larvée, une guerre apparemment innocente. Mais la Suisse est en guerre, je veux dire, c'est un pays qui est à l'avant-garde de la guerre contre le tiers-monde, par exemple. Une guerre économique. Nous sommes en même temps les comparses et les victimes de cette guerre. Nous la tolérons parce que nous ne pouvons pas l'empêcher. Mais elle se fait à notre nom aussi. Donc je pense que prendre la parole, c'est une lutte incessante à l'intérieur d'une guerre de position.
L'Espagne est une espèce de projection utopique de la Suisse, non?
Non, pour moi, l'Espagne, c'est l'autre pays, je veux dire, c'est un pays de révolution, où il y a une révolution perdue. La Suisse est le pays d'absence de révolution. La Suisse est un pays, même contre-révolutionnaire, toujours été, toujours du côté de la contribution. D'ailleurs, pendant la guerre d'Espagne, le gouvernement suisse était déjà du côté de Franco, qui pendant toute la guerre avait une représentation diplomatique à Berne. La Suisse n'a jamais rien fait contre les dictatures. Les réfugiés politiques qu'on reçoit quand ils viennent des pays de dictature de droite, on les refuse. Quand ils viennent de pays socialistes, on les accepte. Ils étaient, je veux dire, on peut dire que la Suisse est le pays le plus conservateur en Europe. D'ailleurs, il y a 80% des gens qui votent à droite. Je dirais aucun pays en Europe où la gauche social-démocrate n'a pas la moindre chance d'avoir un jour une majorité. En Suisse, c'est complètement impensable. Je veux dire, la Suisse est certainement le pays le plus conservateur en Europe. Donc c'est dans ce pays-là où je participe avec mes films à une histoire de la résistance pour montrer que même en Suisse, il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui ne participent pas à ce pouvoir-là. Et c'est avec ces gens-là que je fais une alliance, film par film. C'est pas seulement les mouvements ouvriers qui m'intéressent plus tellement parce qu'ils n'existent plus. Les mouvements ouvriers, il m'a intéressé un moment parce que je travaille sur une époque des années 30 et des années 40, mais je dépasse ce mouvement et je participe avec mes films à une histoire de la résistance en Suisse, dans la mesure où on peut parler de résistance.
À 18h dans le cadre de la programmation documentaire sur grand écran. Alors je vous donne lecture donc de ce calendrier de programmation qui est une initiative d'une association de défense du court-métrage qui présente des courts-métrages. Black Harvest, donc de Bob Connolly et Robin Anderson, Netsilik Eskimos d'Absen Balixi, Les Maîtres Fous de Jean Rouge, Les Statues Meurent aussi d'Alain René et Chris Marker, Marine de Reichenbach, DNB 91 au cœur de l'armée rouge d'Alexei et Canutin, Les Moissons de Fer de Rougeron et Jean-Claude Loubchanski, Hôtel des Invalides de Georges Franju, cinéaste auquel le Passerelle avait consacré une émission spéciale, lors de l'intégrale, ou du moins de la rétrospective très complète de l'œuvre du cinéaste, L'Arrière-Pays de Guy Olivier, Les Saisons de Péléchian, La Bête Lumineuse de Pierre Perrault, Tercero Millennio de Jorge Bodansky, Face Value de Van der Koken, Brass Unbound de Van der Koken, Jacques Rivette le Veilleur, cinéaste que j'aime beaucoup et auquel Claire Denis, en collaboration avec Serge Danet, a consacré un documentaire, Danny Michi, Renato et Max, donc de Richard Lindo, Il était une fois les sept Siméons, de Ernst Frank et Vladimir Eisner. La programmation concernant ces documentaires continuera jusqu'au mois de mai et probablement jouera les prolongations. Alors, je vous signale qu'une journée spéciale Richard Lindo aura lieu au cinéma L'Entrepôt le dimanche 25 avril, avec une rencontre et un débat avec Didier Deninx, qui est donc un ami de la radio, le cinéaste Medondo et Thierry Garel, responsable de l'unité documentaire de la 7. Alors seront présentés donc deux films de Richard Lindo dans le cadre de cette journée, donc Danny Michi, Renato et Max, qui passent tous les jours, je vous le rappelle, au cinéma Utopia à 18h, et Charlotte, vie ou théâtre. Voilà, nous retrouvons Richard Lindo.
J'ai l'impression que tu étouffes tellement aussi.
Oui, je crois donc l'Espagne. Moi, j'ai toujours un peu vécu. Enfin, c'est un petit patient qui m'a dit tu es amoureux des défaites. Je dis je ne suis pas amoureux des défaites, je suis amoureux de ceux qui les subissent et solidaire avec eux. Parce que nous allons toujours subir des défaites. Parce que le mouvement de la résistance subit toujours des défaites. J'ai vu avec la commune, je vis avec la guerre d'Espagne, parce que c'est aussi une plaie avec laquelle on vit quand on rêve de la révolution. Et il faut aussi survivre à la défaite. Et c'est pour ça que j'appelle certains de mes films des travaux de deuil. Parce qu'un travail de deuil, pour moi, c'est aussi une manière d'apprendre à survivre à la défaite. Donc, mon rapport à l'Espagne, il est passé d'abord par les combattants d'Espagne, qui sont des gens auxquels j'ai fait hommage avec mon film, que j'ai mis dans l'histoire de la Suisse. Sans mon film, il n'existerait plus politiquement ni historiquement. Et c'est à travers eux que j'ai commencé à avoir un rapport à l'Espagne. Et puis, un peu aussi par hasard, je suis venu plusieurs fois en Espagne à faire un film. Par exemple, le fait que Max part en Espagne était un hasard, mais en étant tout à fait logique dans mon propre travail. C'est pas seul pour ça que, d'ailleurs, que le film s'arrête là-dessus. Mais il est vrai que pour moi, la Suisse est un pays où j'étouffe. Parce que la Suisse est un peu, d'une part, un pays très libéral, très démocratique, bien plus démocratique que la France, bien plus républicaine d'ailleurs, mais où on a l'impression que chaque citoyen est un mouchard ou un assommeur. C'est-à-dire où il y a un état de police, un état policier dans la tête des gens, dans les esprits. Chacun surveille l'autre et on ne peut rien faire sans qu'on se sent bousculé, agressé, retardé, freiné, poussé, gêné, etc. Et ça, c'est un sentiment que j'ai quand je suis en Suisse, d'une absence complète de liberté. C'est un pays tellement bien organisé qu'on peut dire que c'est un pays de dictature, par l'organisation et par la surveillance. Mais à l'intérieur de ce système, quand on l'accepte, il y a des espaces qui permettent de vivre quand même. Mais disons que je me sens mieux en Espagne, je me sens mieux en France qu'en Suisse. Mais comme je suis suisse, j'essaie de travailler avec ma matière à moi, parce que j'estime que le plus facile de travailler là, on connaît les problèmes. Et je cherche, en Suisse, je cherche à me constituer une famille. Je dis hier que je travaille sur quelque chose que j'appelle le roman de famille, c'est-à-dire j'essaie de me constituer une famille suisse avec laquelle je peux vivre, qui n'est pas, qui est un territoire à l'intérieur de la Suisse où je me sens à peu près bien. Et mon cinéma, comme d'ailleurs le cinéma de beaucoup de cinéastes suisses, est aussi toujours une manière de se poser la question comment peut-on vivre en Suisse et comment peut-on être libre dans un pays comme la Suisse.
Sur la mort de quatre jeunes du mouvement des jeunes de Zurich qui ont été tués au cours de bavures policières. Et ce film est à voir, ce film ne va pas rester longtemps sur les écrans et ce film est très beau.
Qu'est-ce qui a déterminé l'ordre des séquences?
Le fait que le premier chapitre était le plus difficile à faire parce que c'était le sujet le plus compliqué à montrer, entre autres parce qu'il y avait une structure familiale plus compliquée qu'avec les deux autres sujets, parce qu'il y avait deux familles, en plus deux familles qui se croisent, donc il y avait une structure parentale plus complexe, donc la représentation elle-même était plus complexe, plus compliquée à faire. Donc j'ai commencé avec cela, aussi parce que c'était un peu plus dramatique que le deuxième, à mon avis. Et plus long aussi, et puis le max était pour moi évidemment à la fin à cause de Barcelone, parce que le sujet de Max me permet de revenir au début du film, au prologue, et de répéter des choses qu'il y avait dans le prologue. Ça fait partie un peu de mon système de structure, de montage que j'ai développé dans mon travail avec mon collaborateur et monteur, Georges Annette. C'est-à-dire de créer une structure qui se développe, qui se répète et qui avance. C'est-à-dire de commencer un film et d'aller à la fin logique de ce qu'on a entrepris au début. C'est-à-dire j'ai toujours cherché ça, un peu ce que j'ai oublié de raconter hier. C'est-à-dire que ce qui me passionne au cinéma, c'est de mettre en route une structure qui commence quelque part et de faire en sorte qu'on a l'impression, au fur et à mesure, en regardant le film, qu'il y a une logique implacable qui s'installe. Comme si le film, en quelque sorte, se faisait par lui-même. J'aime cette idée d'un pinceau ou d'un tissage, comme s'il y avait une main invisible qui tissait la structure du film, et comme si, en quelque sorte, ce travail se faisait presque indépendamment du cinéaste, par lui-même, par une force inhérente à la matière du film et à la structure du film, qui, en quelque sorte, va à sa propre fin, inéluctablement. C'est pour ça que je finis toujours d'une manière dramatique mes films. J'essaie toujours de trouver une fin dramatique, c'est-à-dire une apothéose, c'est-à-dire la fin du film qui était déjà inscrit dans le début. Donc il y a, chez Max, dans le troisième chapitre, il y a effectivement une répétition d'éléments avec lesquels on avait commencé dans le prologue, parce qu'il y a un cercle qui se ferme, ou plusieurs cercles qui convergent, qui rentrent les uns dans les autres et qui à la fin se ferment les uns après les autres. Ce que j'ai appelé ici avec Frisch, déjà avec Ernest Hesse, c'est-à-dire de faire une structure qui se répète et qui en même temps avance en se répétant.
Parce que moi j'ai eu l'impression que si Max venait en dernier, c'était parce qu'il y avait donc le départ à Barcelone et la mort en Espagne, mais j'ai eu l'impression que c'était une progression dans la compréhension de la violence d'État. Parce qu'il me semble que les deux premiers, c'est presque des accidents, on pourrait le croire, mais sur Max, c'est évidemment l'État directement qui frappe.
Je crois que le troisième chapitre permet de faire un résumé des deux autres, parce que Max était presque un peu un intellectuel comparé aux trois autres. C'est-à-dire, au troisième chapitre, ça nous permettait de réellement situer la métaphore du film, c'est-à-dire de montrer que la mort des quatre jeunes est aussi la mort de leur mouvement, et que leur mort est une métaphore de la mort du mouvement. Ça a été possible à expliquer dans le troisième chapitre, justement en accord avec ma philosophie qui consiste à toujours chercher la vérité profonde de mon sujet. Et c'était possible grâce à la manière dont ce sujet se présentait, je veux dire, l'ouverture vers l'Espagne, l'ouverture vers la métaphore. Je ne pourrais même pas l'expliquer, c'était pas prévu comme ça, mais il était évident à partir d'un certain moment que le troisième chapitre, c'est le Max, nous permettait cela.
Tu as dit...
par rapport à la violence de l'État...
Max le concentre mieux, je trouve.
Oui, je crois que, lorsque je voulais dire autre chose encore par rapport à la violence, je crois que le film donc est aussi un film sur comment ces quatre sont morts, et dans chaque chapitre, j'ai essayé finalement de montrer le moment même de leur mort. Par exemple, la poursuite de Dan et Michi, je l'ai aussi montré, non seulement pour reconstituer l'accident, mais aussi pour montrer leur instant de mort, leurs derniers instants avant de mourir. Comme j'ai montré la dernière course poursuite de Renato avec son regard à travers la fenêtre de la voiture, et puis ce regard sur les murs de la maison devant laquelle il s'est arrêté. Je veux dire, en quelque sorte aussi, c'était le dernier regard, c'était la dernière image que Renato a vue, comme le regard sur la voiture de police chez Dani Michi, c'était les dernières images de leur vie. Et chez Max, évidemment, je suis allé le plus loin dans cette idée-là, et j'ai même répété le dernier pas de Max. Et en quelque sorte, avec la caméra, nous sommes marchés dans ces pas, et la caméra même s'identifie à l'instant avec Max, parce qu'il est tombé exactement là où on l'a filmé, et le ralenti de la caméra, de l'image, finalement, c'est le ralenti même du cerveau, du fonctionnement du corps, de Max lui-même. Donc, c'était aussi ça qui m'intéressait. Il y a des gens qui meurent et je montre comment. Ça fait partie du sujet et d'une certaine radicalité chez moi d'aller au bout de ces sujets. C'est toujours le sujet qui m'impose la forme. Je cherche toujours à trouver une forme qui est inhérente à mes sujets. J'essaie jamais de manipuler mes sujets et d'imposer ma personne à mon sujet. C'est toujours l'inverse. Je me soumets à mon sujet, j'essaie de le lire, de le comprendre et de trouver les signes qui le formalisent, qui le représentent. Contrairement à d'autres cinéastes, j'ai lu auxquels le sujet n'est qu'un prétexte pour développer leur langage, leur personnalité, etc. Moi, c'est l'inverse. C'est aussi pour cela que je suis documentariste.
Sinon,
n'ai jamais eu le moindre problème. Ni pour le financement, ni pour le tournage. Là, le film va être présenté à la télévision lundi prochain. Puis on verra si la police ou les autorités vont rouspéter. Si jamais ils rouspètent, il y aura un débat. Voilà, la réaction de la télévision suisse est un s'il risque de faire ce genre de film, à condition que ce soit un indépendant. La télévision elle-même, elle n'aurait pas osé de faire le film. Ça, il faut le dire aussi. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pu faire le film avec la télévision qui m'a cofinancé le film, parce que je suis un indépendant. Hein. Et il finance mon film au nom de l'aide au cinéma suisse. C'est pas, si tu veux, un intérêt précis de faire ce genre de film, même s'il accepte mon film et le défend. Ils sont tout à fait d'accord avec le film, ils ne m'ont pas jamais critiqué pour le film. Mais eux-mêmes, ils n'auraient jamais osé de le faire. Enfin, ça, je l'ai raconté. Ceci dit, il faut dire que l'histoire de Max est à soi identique avec l'histoire de Malik. Et j'attends toujours un film sur Malik. Et des histoires comme Renato et Mundanevich, ça se passe une fois par mois en France, et régulièrement.
D'ailleurs, j'ai trouvé dans le film une telle réplique, en fait, de la manière dont tu présentes, par exemple, Danimichi et Renato, je trouve ça très intéressant, parce qu'en France, les premières choses qui ont été écrites sur Malik, c'est de dire que, à la limite, c'était un délinquant. De faire passer pour un délinquant. Et là, on voit que le même scénario de policiers, de complot, de calomnie, joue comme quoi la police, hein, ça se ressemble un peu partout.
C'est la nature même de l'esprit policier de faire de chaque citoyen un délinquant. Je veux dire, c'est des gens méfiants et qui cherchent partout des voleurs, etc. Jamais les grands, toujours les petits. Donc tout le monde, aux yeux d'un policier, est fondamentalement un délinquant. Ça, c'est comme ça partout dans le monde.
Tes documentaires vont à l'encontre en fait, de l'ordre naturel, et c'est au montage que tu donnes sens à tes films. Alors, est-ce que tu pourrais un peu revenir là-dessus? Et si, j'ai cru voir quand même, j'ai cru déceler une évolution vers quand même beaucoup de plans fixes, de plus en plus, et même des longs plans séquences. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus?
Pour la caméra, je travaille de la même manière que pour le reste de ce que j'appellerais ma philosophie, c'est-à-dire aussi de faire des mouvements quand la réalité me le demande, jamais faire un mouvement gratuit, par complaisance. Je crois que je suis un cinéaste de l'anticomplaisance et de l'antimoralisme. Je ne fais jamais rien gratuitement, je me demande toujours pourquoi. Et c'est au montage, justement, où on donne une réponse définitive au pourquoi, pour faire comprendre ce qu'on a vu, de donner un sens aux choses. Si on travaille comme moi dans la reconstruction, on est obligé de savoir ce qu'on filme et pourquoi. Contrairement à Despardons, qui lui filme des situations réelles d'une manière très juste et précise, mais lui n'est pas obligé de donner un sens aux choses, puisqu'elles se passent à son insu. Donc son film n'a en quelque sorte aucun sens. Et c'est un autre type de démarche, une autre philosophie. Mais quand on travaille sur un territoire de la fiction, il faut toujours donner un sens aux choses, sinon on ne sait pas que faire. Si j'arrive dans un décor, en tant que documentariste, par exemple je filme un entretien dans une cuisine, j'arrive un soir, et sur la table il y a une bouteille et un verre, je m'en fous. La bouteille, elle est là, je la filme parce qu'elle est là. Mais si tu as un décorateur et tu lui dis, bon, on a un plan dans une cuisine, immédiatement, il te parle, demande, est-ce qu'il y aura une bouteille sur la table? Est-ce qu'il y aura du vin? Est-ce qu'il y aura de l'eau? Donc, si quand tu fais de la fiction, la réalité te pose sans arrêt des questions et tu l'attends sans arrêt donner un sens aux choses, ton équipe te pose sans arrêt des questions, comment faire, pourquoi, etc. Alors que le documentariste, il a plus de liberté par rapport au sens du monde, qui reste de toute façon toujours caché. Donc, moi, je suis d'une certaine manière plus proche de la fiction. Donc, j'ai un autre rapport au sens. Et effectivement, je crois que c'est au niveau du montage où le sens définitif se crée, Mais ce que j'essaie d'éviter, c'est de trop faire voir mes intentions. Ça, je l'ai appris de Straub. J'aime qu'un cinéaste et un cinéma soient objectivement cohérents et évidents et plausibles par lui-même et qu'on n'a pas toujours l'impression qu'un cinéaste essaie sans arrêt de t'expliquer le monde. Il faut que ce soit évident. Il ne faut pas que ce soit réductible à mes intentions. C'est-à-dire, finalement, pour moi, le travail sur le sens implique aussi l'effacement de l'intention. Ce qui pourrait paraître paradoxal ou contradictoire, mais pour moi, c'est une dialectique. C'est-à-dire, avoir des intentions, chercher un sens, et puis, en même temps, effacer, détruire la recherche du sens. Pour que le sens apparaît comme évident, pour qu'on n'ait pas l'impression que je manipule le monde, mais que je le montre comme il est. Je dis là, je travaille dans un va-et-vient entre le documentarisme et la fictionnalisation. C'est-à-dire que d'une part, je donne un sens, j'ai une vision des choses, et en même temps, j'essaie de montrer les choses comme elles sont.